En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co.
Alors je suis ravie de vous retrouver ici derrière nous, pour ceux qui nous regardent sur BFM Business et sur Tech & Co, il y a des dizaines d'avions, des aéronefs, des drones, même des fusées, puisque ce salon c'est aussi celui de l'espace. Bonjour Essie Alakoua.
Bonjour Pauline.
Alors au Bourget, une société monégasque expose notamment un véhicule qui pourrait devenir celui des astronautes qui vont effectuer les prochaines missions lunaires.
Et oui Pauline, j'ai visité le stand du groupe monégasque Venturi et là-bas j'ai pu découvrir le rover Flex. Flex, ça vient de Flexible Logistics and Exploration, en français logistique et exploration flexible. En fait, il s'agit tout simplement d'une petite voiture de 3 mètres de large et de 6 mètres de long. Cet engin, il est né d'une collaboration entre Venturi à Monaco, Venturi Lab à Fribourg en Suisse et Astrolab qui est une société américaine basée à Los Angeles.
Bon bah alors petite voiture et ça, on n'est pas quand même dans la smart pour rouler sur les collines lunaires. Concrètement, elle va fonctionner comment cette voiture?
Alors eh bien Pauline, ce véhicule robotisé et semi-autonome sera déployé d'ici 3 ans, plus exactement en 2026 sur le pôle sud de la Lune pour aider à des missions scientifiques et commerciales, parce qu'en fait il peut quand même transporter sur la Lune une charge utile d'une tonne 5 qui peut être répartie en plusieurs charges de 25 kg chacune. Et pour sa première mission, le rover devrait arriver seul sur la Lune.
Mais il sera autonome, personne ne va pouvoir le conduire.
Alors, c'est ça l'histoire, c'est qu'il peut être autonome et robotisé. Je vous explique tout à l'heure, mais c'est l'entreprise américaine SpaceX qui a été créée par
Elon Musk, bien sûr.
Voilà, exactement. Qui va transporter cette voiture sur la Lune grâce à son super lanceur, le Starship, que vous connaissez bien, Pauline.
Aussi également. Mais alors, je me doute que finalement, faire une voiture pour la Terre et faire une voiture pour la Lune, c'est complètement différent. Quels matériaux on utilise pour qu'on puisse rouler sur une planète où il n'y a pas d'atmosphère, enfin, un élément où il n'y a pas d'atmosphère?
Alors, des matériaux très, très résistants, Pauline. Les équipes qui ont travaillé sur ce projet, elles sont composées de physiciens, de chimistes, d'ingénieurs. Alors, il y en a plusieurs qui sont des anciens de la NASA et de SpaceX, et ils ont dû créer une machine capable de survivre dans des conditions extrêmes, comme de soutenir des températures comprises entre moins 90 et moins 230 degrés, de résister aux radiations, et ou encore de fonctionner dans une obscurité totale. Elle peut rester une centaine d'heures en obscurité totale. L'idée aussi, c'est que la machine qui peut rouler jusqu'à 20 km/h puisse fonctionner en étant, voilà Pauline, je vous le dis, télécommandée à distance depuis la Terre, mais aussi elle est capable d'accueillir des astronautes à son bord ou être totalement autonome. Venturi Lab, il a aussi développé un nouveau type de roue. C'est une première dans le monde. Elle a été présentée pour la première fois ici au Bourget. Donc c'était lundi dernier, le 19 juin. Cette nouvelle roue que vous voyez sur nos images, pour ceux qui nous regardent à la télévision, elle est capable de quasi totalement se déformer pour absorber les irrégularités du sol lunaire.
Oui, parce que sur un salon aéronautique, on parle aussi de roues. Et alors cette roue, on va la retrouver pour la première expédition lunaire en 2026?
Oui, elle sera du voyage, c'est ce que nous a dit Venturi. Et cette première mission lunaire en 2026 avec SpaceX doit permettre aussi aux ingénieurs et aux scientifiques de Venturi d'améliorer le rover Flex. Maintenant, l'objectif pour Venturi est bien évidemment, Pauline, de remporter l'appel d'offres de la NASA pour son programme Artemis. Première réponse normalement en novembre 2023.
Ouais, mais on prendra leurs nouvelles à ce moment-là. Essia, merci beaucoup. On redescend à des altitudes un peu plus proches de nous. La décarbonation de l'aviation, elle passera par des nouveaux moteurs, par de nouveaux types de carburants. On en parlera tout à l'heure avec notre invité. Mais cela passera aussi par de nouvelles ailes. Bonjour Pascal Samama.
Bonjour Pauline.
Alors sur ce salon, Airbus dévoile une toute nouvelle aile, mais alors qui est inspirée pas du tout des avions, mais de ceux qui volent depuis des centaines d'années, les oiseaux.
Bah exactement, mais c'est un petit peu un retour aux sources, hein. Faut se rappeler quand même que les premiers avions, à la fin du 19e siècle, avaient des ailes qui s'inspiraient réellement des oiseaux, hein, avec des formes vraiment qui rappelaient les formes des oiseaux. Ça n'a pas été très concluant. Vite, on a changé cette forme d'aile pour pouvoir transporter des avions de plus en plus lourds, les faire voler de plus en plus haut et à des vitesses de plus en plus rapides. Alors Airbus Up Next, c'est la division innovation d'Airbus, a décidé de travailler sur le design des ailes d'avion pour économiser du carburant. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit, on va regarder des oiseaux, on va regarder comment ils volent, leur façon de voler, leur façon de planer, et puis on va s'inspirer de leur ossature, leur morphologie pour créer de nouvelles ailes. Alors pour économiser du carburant, ils ont observé les albatros.
C'est poétique en plus cette aile.
Oui, ça rappelle des poésies d'enfance. L'albatros.
Tout à fait.
Donc ils ont regardé l'albatros, et l'albatros, il a une particularité pour éviter de fatiguer ses ailes pendant qu'il vole, il relâche ses épaules et là, il fait beaucoup moins d'efforts pour voler à des altitudes et conserver sa vitesse. Alors, qu'est-ce que les ingénieurs ont fait ? Ils ont créé une pointe rétractable pour réduire la consommation et apparemment, ça marche. Ils sont vraiment inspirés de l'ossature de l'albatros.
Bon, alors, il n'y a pas que les oiseaux qui volent. Sur ce salon, il y a aussi nos feuilles avec le vent. On a parlé d'albatros. Il y a d'autres oiseaux qui ont pu inspirer les sociétés aéronautiques ?
Bah, évidemment, quand on parle d'oiseaux qui volent et quand on veut faire des choses en grand, on pense à qui ? À l'aigle. Et donc, ils sont inspirés de l'aigle, là, cette fois, pour stabiliser le vol pendant les turbulences. Ils ont conçu des ailes 30% plus grande que celle des appareils. Ils ont intégré des gouvernes qui s'inspirent des plumes des ailes de l'aigle. Alors, le pilote, en tout cas pour lui, n'a rien à faire. Il n'a rien à enclencher. Il n'a pas d'a.
Elle fait tout toute seule, en fait.
Elle fait tout toute seule parce qu'il y a des capteurs sur tout l'appareil. Et quand les turbulences arrivent, il les sent de loin. Il analyse les données qu'il arrive à capter. Et là, les gouvernes se contrôlent instantanément et s'adaptent pour que l'appareil puisse voler vraiment tranquillement. Alors, les premiers tests sont prévus en 2025 sur un jet. Sur un jet assez rapide, justement. Et pourquoi sur un jet ? Pour pousser les technologies dans leurs dernières limites, pour voir si ça fonctionne vraiment bien. Et s'ils sont positifs, eh ben, ces ailes équiperont les prochaines générations d'appareils Airbus moyen courrier.
Eh ben, merci beaucoup, Pascal Samama. Alors, eux, ils n'ont pas forcément une aile d'avion. Eux, ce sont les eVTOL. Hein. Ce sont ces aéronefs à décollage, atterrissage verticaux. On appelle aussi taxi volant dans un langage plus commun. Et on en parle depuis quelques mois maintenant. Et ben, ils ont un espace dédié ici au Bourget. Et c'est là quoi ? Tu t'es intéressé à un eVTOL qui s'appelle le Midnight. Alors, c'est un eVTOL américain de l'entreprise Archer. Mais la particularité, c'est qu'il va être produit par Stellantis.
Oui, Pauline, le Midnight, il a été présenté en première européenne lundi aussi, le 19 juin, au Bourget, donc ici. Et il est resté exposé toute la semaine au centre de l'espace Paris Air Mobility, donc à côté d'autres eVTOL, comme par exemple le Volocopter ou encore le Lilium Jet, qu'on a déjà vu dans cette émission. Mais la spécificité, comme vous l'avez dit, du Midnight, c'est surtout qu'il va être produit par un très grand groupe automobile, Stellantis quand même. Le constructeur automobile a pris une participation dans cette start-up californienne, il a investi des fonds et il va même les aider à construire une usine de production, comme nous l'a expliqué Carlos Tavares, donc le directeur général du groupe Stellantis.
Nous avons pris une participation et nous avons mis des fonds à disposition de cette entreprise pour les aider à croître. Et nous avons actuellement une équipe de nos industriels qui s'occupe de la mise en route de l'usine qui va fabriquer donc cet avion qui s'appelle Midnight, et donc d'apporter toutes les techniques, tous les équipements et tout le savoir-faire nécessaire pour maîtriser des fabrications qui, pour l'industrie aéronautique, sont à haut volume, puisqu'on va atteindre à peu près 1000 avions par an, et qui respectent des standards de qualité et de sécurité qui sont, comme vous le savez, très élevés. Et notre entreprise, chez Stellantis, nous avons cette expertise-là.
Oui, donc il y a ce taxi volant produit grâce à l'aide de Stellantis, le Midnight, là, comment il va être, on va le voir quand voler, en fait, pour de vrai ?
Alors, l'un des objectifs principaux de cet engin électrique, Pauline, c'est d'éviter les embouteillages sur les petits trajets urbains, par exemple pour se rendre à l'aéroport. On a d'ailleurs parlé de ça avec Adam Goldstein, qui est le PDG d'Archer Aviation.
L'utilisation principale des véhicules est donc de déplacer des personnes dans et autour des environnements urbains. Un excellent exemple, et probablement là où nous commencerons, sera d'aller d'un centre-ville vers un aéroport. Ce sont des voyages où les gens partent généralement très tôt. Ils vont prévoir 30, 60, 90 minutes supplémentaires en plus de leur voyage en cas de problème lié au trafic. Pour nous, ce type de trajet sera prévisible. Nous pourrons même probablement atterrir directement à la sécurité du terminal. Non seulement vous pouvez sauter tout le trajet jusqu'à l'aéroport, mais vous pouvez en fait probablement esquiver toute l'expérience de l'aéroport.
Pour l'instant, Pauline, Archer Aviation et Stellantis attendent de recevoir toutes les certifications pour le Midnight, mais la production devrait débuter mi-2024 pour une mise en service en 2025.
Merci beaucoup, Essia. Bon, alors de l'électrique, on va passer à l'hybride. Oui, il y a des avions hybrides. C'est notamment le credo de la société Voltaero. Alors, elle expose ici sa famille Cassio. Pascal Samama, ce sont des aéronefs qui font quoi, 6 à 12 places, c'est ça, et qui fonctionnent en fait avec un moteur hybride électrique. Bah, c'est encore comme les voitures.
C'est quasi comme les voitures. Alors, le Cassio, c'est l'un des plus beaux appareils du salon. Hein. Je suis... En parlant d'esthétique, on n'a pas à être objectif ou subjectif, c'est vraiment ce que je pense. L'appareil, l'avion, il est juste derrière nous, là. On dirait un dauphin gris et noir. Il est réellement magnifique. Esthétiquement, c'est vraiment une réussite. Mais le point fort, c'est quoi? C'est l'innovation de sa motorisation hybride. Alors, les moteurs hybrides, il est constitué de moteurs électriques situés à l'arrière de l'appareil, qui permettent de rouler, qui permettent de décoller, qui permettent d'atterrir, et aussi lors des vols de moins de 150 km. Ça, c'est pour le moteur électrique. Au-delà, c'est le moteur thermique qui prend les choses en main. Il pourra non seulement faire voler l'avion plus longtemps, peut-être un peu plus vite, mais surtout, il pourra en même temps recharger le moteur électrique, ce qui fait que c'est un vrai moteur hybride aussi efficace qu'un moteur hybride évolué d'une voiture. Alors l'idée du fondateur de Voltaero, c'est vraiment de... C'est pas de remplacer ni le train ni l'avion, c'est vraiment de fournir une nouvelle façon de voyager par les airs.
Et alors il y a un détail qui t'a marqué, Pascal, c'est le côté, le lien finalement avec le monde de la moto.
Comme par hasard.
Ça me surprend.
Bah, parce que son moteur thermique, c'est quoi? C'est le moteur d'une Kawasaki Ninja. C'est le 6 cylindres de la moto surpuissante de Kawasaki. Alors pourquoi le choix de ce moteur de Kawasaki? Parce que Kawasaki Motor est l'un des financiers de Voltaero. Voltaero n'a pas trouvé de financier français, ou pas assez. En tout cas, il est soutenu par sa région, mais il n'a pas trouvé de financier suffisamment puissant. Kawasaki a décidé de l'aider en le finançant, on ne sait pas à quelle hauteur, et en lui fournissant sa technologie. Et le petit scoop qu'on a, c'est qu'on sait que Kawasaki, à partir de 2030-2035, veut passer à l'hydrogène, et bientôt, on ne sait pas quand, mais bientôt, il y aura une version du Cassio en moteur hydrogène. Hybride, peut-être, mais en tout cas hydrogène.
Merci beaucoup, Pascal Sama. Merci, Essia Lacroix. Vous restez avec moi. On va continuer d'explorer ce monde de l'aviation de demain et de la décarbonation. Et on va parler notamment de carburant de synthèse.
BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité.
Du carburant d'aviation durable, hein, le SAF dans son acronyme anglais, alors c'est l'une des grosses tendances de ce salon, on en parle partout, ça doit permettre de remplacer le kérosène. Pourquoi? Pour réduire les émissions de CO2. Alors c'est une solution qui est portée par le secteur, qui est soutenue aussi par le gouvernement dans son plan Avion Vert. Bonjour Nicolas Jelan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes expert émérite carburant durable chez Safran. Juste pour planter le décor, parce qu'on n'est pas tous des experts en aéronautique, qu'est-ce qu'un carburant durable?
Le principe d'un carburant durable, ça va être un carburant qui va respecter l'environnement et notamment limiter le réchauffement climatique. Et comment on va faire ça? Tout simplement, au lieu de prendre des carbones qui est dans le sol, donc sous forme fossile, et de l'accumuler dans l'atmosphère sous forme de CO2 par la combustion, eh bien on va prendre ce carbone dans l'atmosphère, on va en faire un carburant, et lorsqu'il va être émis, finalement, on va avoir un cercle qui peut être potentiellement totalement vertueux, donc qui permettra une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre. La question, c'est comment est-ce qu'on va le capter dans l'atmosphère?
Absolument.
Ben ça, il y a une façon très simple de le faire, c'est les plantes. Les plantes, ça marche très bien. La photosynthèse, c'est le principe. En fait, elles vont capter ce CO2 et faire de la biomasse. Et donc, nous, on va transformer cette biomasse pour en faire un carburant. La deuxième possibilité, c'est de le faire de façon physique, avec des procédés industriels pour capter ce CO2 et ensuite faire un carburant de synthèse en le combinant à de l'hydrogène pour donc ensuite en faire un carburant qui fonctionne dans les aéronefs.
Ce carburant de synthèse, ça rappelle finalement ce que certains constructeurs automobiles essaient de développer, que ce soit pour la course ou pour les voitures de sport, hein. carburant finalement totalement synthétique.
C'est exactement le même principe. D'ailleurs, ce sont les mêmes procédés. En général, les procédés qui sont capables de faire des carburants pour le transport terrestre sont aussi capables de faire des carburants pour le transport aérien. Ceci étant dit, la qualité des carburants, les propriétés des carburants ne sont quand même pas exactement les mêmes, tout simplement parce que, bien entendu, les propriétés qu'on demande à un carburant terrestre qui reste au niveau du sol et où le problématique de poids n'est pas la même vont forcément être différentes d'un aéronef où on va rencontrer des températures extrêmement basses, par exemple, et un besoin de contenu énergétique très important.
29 octobre 2021, il y avait le premier vol d'un A319neo qui fonctionnait 100% avec ce type de nouveau carburant, ce carburant fourni par Total Energy. On en est où maintenant? Ça fait un an et demi. Quelles sont les avancées depuis ce premier vol?
Alors, ce premier vol, en fait, qui avait été fait dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet Volcan, financé par la Direction Générale de l'Aviation Civile au niveau français, a pour but, en fait, de tester en vol différents types de carburants pour notamment valider l'impact sur ce qu'on appelle les effets hors CO2, c'est-à-dire typiquement les traînées de condensation. Parce qu'en effet, ces carburants ont un intérêt en matière de CO2, mais également un intérêt en termes de réduction de ces émissions polluantes. Et donc, on continue le projet. On a fait toute une série d'essais en vol avec Airbus et le DLR. Donc, on fait voler des avions avec un avion suiveur derrière pour mesurer ses émissions avec différents types de carburants dans le but de valider ceci, donc valider les émissions polluantes mais valider aussi l'impact sur l'aéronef, parce que ces carburants ils sont très intéressants mais ils n'ont pas exactement la même composition que les carburants classiques, ils n'ont pas, c'est pas exactement la même recette, et donc il faut absolument valider la totale compatibilité de tous les systèmes aéronefs, du réservoir jusqu'au moteur et jusqu'aux émissions polluantes avec ces carburants. C'est ce que nous menons notamment dans le projet Volcan.
Alors moi j'ai une toute petite question à vous poser, peut-être deux petites questions. La première, c'est Safran, c'est un motoriste. Est-ce que vous avez dû modifier de façon importante les moteurs pour accepter ce carburant? Et deuxième chose, est-ce que ce carburant joue dans les performances des avions? Est-ce qu'il les réduit?
Alors pour l'instant, en fait, on essaie bien entendu d'avoir un carburant qui soit le plus proche possible des carburants actuels. Donc jusqu'ici, on les mélangeait à 50%. Et le fait de le mélanger dans du carburant classique faisait qu'en fait, on a un carburant qui était totalement compatible avec les technologies existantes. Donc c'est-à-dire sans aucune modification. Là, on est en train d'essayer de passer l'étape supplémentaire qui va être de fonctionner à 100%. Et là, il va sans doute y avoir des choses à changer. Soit on choisit le carburant, c'est-à-dire qu'on le formule pour être compatible. C'est la première étape. L'autre étape, c'est de dire on va les prendre purs et on va regarder ce que ça donne. Et là, il y a un certain nombre de choses à valider. Un développement fondamental, on n'a pas un changement fondamental du moteur, on a des pièces à valider au niveau du pompage, au niveau de certains joints qui ne sont pas forcément adaptés au niveau du circuit carburant. Néanmoins, l'ensemble du système propulsif va rester quasiment identique à quelques changements près.
Et pour les performances?
Alors pour les performances, en fait, en termes de fonctionnement, c'est totalement transparent. Par contre, on voit quand même des bénéfices. Ce sont des carburants qui, par exemple, ne contiennent que très peu d'impuretés du type soufre, etc. Donc on verrait plutôt un intérêt en termes de maintenance. Par exemple, on va faire moins de dépôts dans le moteur, on va faire moins de corrosion des parties chaudes. Et là, c'est le deuxième effet qui se coule finalement de ces carburants qui nous permettront également de fonctionner plus longtemps et en maintenant des performances optimales.
Et c'est à la quoi tu avais aussi une question?
J'avais une question au niveau de... Est-ce qu'on peut... On pourrait, disons, utiliser des biocarburants pour des petits... pas des petits avions, mais par exemple des eVTOL, ces aéronefs à décollage et atterrissage verticaux. Ils sont électriques, mais bon, on doit du coup construire des vertiports. Est-ce que utiliser du biocarburant permettrait d'améliorer par exemple la rotation ou voilà? Ce genre de choses.
Alors, le gros avantage de ces carburants, c'est qu'ils sont similaires aux carburateurs actuels. Donc, on est capable de faire marcher n'importe quel véhicule, du plus petit au plus gros, avec ces carburants-là. Ceci étant dit, il faut regarder pour chaque application quelle est la meilleure solution énergétique. Et au final, en fait, il faut regarder, on va dire, par rapport à un électron donné ou une quantité d'électricité donnée, quelle est la meilleure façon sur l'ensemble de la chaîne d'utiliser ça. Pour des petits véhicules de ce type-là, l'électricité avec un stockage en batterie et un moteur électrique, c'est clairement ce qu'il y a de plus efficace. Par contre, bien entendu, à arriver à une certaine taille de véhicule, on va avoir une problématique de poids, on va devoir embarquer beaucoup trop de batterie et à ce moment-là, on va être obligé de basculer sur la solution des carburants. Mais pour des tout petits véhicules, honnêtement, il vaut mieux rester sur l'aéronef électrique.
Nicolas Jolan, vous parlez d'efficience. On a certains experts qui nous disent finalement il y a du bon SAF et du mauvais SAF. Alors du coup, comment on arrive justement à évaluer que ce SAF, que ce carburant de synthèse soit vraiment... ne cause pas d'autres soucis pour la planète au-delà des émissions qu'il ne fera peut-être pas?
Exactement, c'est pour ça que depuis le début, d'ailleurs, on parle de SAF, Sustainable Aviation Fuel, on parle pas de biocarburant, par exemple. Parce qu'en fait, ce qui nous importe, nous, c'est que le carburant, il soit durable. C'est-à-dire qu'il soit fait à partir d'une ressource ou d'une autre, c'est pas forcément important. Le principal, c'est qu'on montre qu'il soit durable d'un bout à l'autre. On va prendre un exemple. Vous faites un hydrotraitement d'huile végétale. Si vous le faites à partir d'huile usagée, vous avez quelque chose qui n'est pas en concurrence avec l'alimentaire et qui permet des gains sur l'ensemble des cycles de vie qui peut être supérieur à 90%. Si vous le faites à partir d'huile de palme produite dans certains pays, en Asie par exemple, il y a de la déforestation, vous avez un produit qui va augmenter les émissions de gaz à effet de serre simplement parce qu'on va raser des forêts primaires pour faire ça. C'est le même carburant, mais il y en a un qui est très bon, l'autre qui est très mauvais. Donc il faut absolument valider la durabilité de ça. Et notamment, on a mis en place un certain nombre de mécanismes via des sociétés privées, par exemple, qui vont venir certifier le carburant que l'on utilise. C'est un peu comme un commissariat aux comptes ou un certificat de commerce équitable. Ça va être exactement la même chose. Ces sociétés vont venir auditer le processus, auditer la matière première utilisée et valider que le carburant que l'on va utiliser, nous, utilisateurs ou la compagnie aérienne, est parfaitement compatible en matière de durabilité.
Pascal Samama.
Qui dit carburant dit faut faire le plein quelque part. Est-ce que vous avez l'intention de devenir le prochain Total quelque part? J'exagère à peine, mais est-ce que et comment vous allez convaincre justement les aéroports d'utiliser ce carburant, de faire des réservoirs pour pouvoir faire le plein de ces nouveaux avions?
Alors déjà Total, Safran n'a absolument aucune vocation à concurrencer Total ou un autre pétrolier. Nous sommes des fournisseurs de technologies. Donc notre rôle finalement, il est de faciliter les choses, il est d'amener les technologies qui permettront d'user ces carburants, d'utiliser ces carburants, et c'est également de faire le lien entre les différents acteurs. C'est un peu pour ça que ça a un peu surpris les gens lorsque Safran il y a 2 ans a investi dans une société allemande qui s'appelle Ineratech qui produit ces types de carburants. L'idée n'était absolument pas de devenir producteur et vendeur de carburant. L'idée était uniquement de comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne, d'avoir cette notion de l'industrie, de savoir quelles étaient leurs limites et comment nous, en tant qu'industriels de l'aéronautique, nous pouvions les aider à arriver sur le marché. Tout ça c'est le rôle, et c'est d'ailleurs le rôle que Safran joue, notamment dans l'Alliance des carburants durables qui a été lancée par la Commission européenne, où la Commission européenne a demandé à Safran de prendre le lead du pilier aviation de cette alliance pour justement essayer de fédérer l'ensemble de ces acteurs. Alors maintenant, le gros avantage quand même de ces carburants durables par rapport à des technologies comme l'hydrogène, par exemple, c'est qu'on va pas avoir à convaincre les compagnies aériennes et les aéroports de mettre ça, simplement parce qu'on va partir sur des technologies qui vont être extrêmement proches des carburants actuels. Donc ça va se faire petit à petit, en mélangeant, sans aucun changement à la fois de la logistique au niveau aéroportuaire, des procédures, de l'avitaillement, etc. Ça va être totalement transparent.
C'est pas une rupture. C'est une évolution, pas une rupture.
Ce n'est pas une rupture vue de l'extérieur. Vue de l'intérieur, ça fait 20 ans qu'on travaille dessus. D'accord. Et justement, on a tout fait pour que ce ne soit pas une rupture vue de l'extérieur. C'est une révolution silencieuse, en fait.
Merci beaucoup, Nicolas Jelon, de nous avoir expliqué ce qu'était le SAF, qui est l'une des grosses tendances qu'on a entendues toute la semaine sur ce salon. Alors, on reste au Bourget, mais c'est la petite surprise de ce salon. Et surtout, c'est le joli coup de com' du moment, puisque nous allons parler automobile. Alors, on parlait de Stellantis tout à l'heure avec Essia, qui s'intéresse au taxi volant. Mais il y a aussi Renault qui est présent sur le salon. Le constructeur a dévoilé son tout nouveau SUV coupé. Son nom, le Rafale, un nom que Renault possède. C'est un reportage de Julien Bonnet.
BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai.
Renault complète sa gamme de SUV après le SUV compact L'Austral sorti l'an dernier et le nouvel Espace cette année. On découvre aujourd'hui un tout nouveau modèle au nom porteur de nombreux symboles, le Rafale. Un SUV coupé de 4,71 m, donc on a la même longueur et le même empattement que le nouvel Espace, mais avec cette posture bien plus dynamique et avec une face avant, des ailes ou encore l'arrière avec un design spécifique. Assez original, la calandre joue sur le dessin du losange avec un éclairage LED et une signature lumineuse qui se distingue des autres SUV Renault. À l'arrière, le toit plongeant débouche sur des feux très effilés et la signature du modèle dans son écriture stylisée qui rappelle celle de l'avion de chasse de Dassault. À l'intérieur, Renault met en avant le positionnement haut de gamme de son modèle qui reprend l'habitacle réussi de l'Austral et de l'Espace avec le combiné d'écran dont un tactile de 12 pouces mais en y ajoutant des petites touches de matériaux nobles comme un élément de la planche de bord en ardoise véritable. Les sièges spécifiques de ce modèle en finition Esprit Alpine, la seule annoncée pour le moment, font apparaître le logo de la marque de Dieppe dans un textile lumineux qui s'active lors de la cinématique d'accueil. Mais le plus bluffant, cela reste le toit panoramique qui peut devenir opaque en appuyant sur un bouton, avec la possibilité de faire bouger ce pare-soleil virtuel sur différentes zones. Une petite prouesse technologique conçue avec Saint-Gobain.
Côté moteur, un seul annoncé au lancement, la motorisation hybride non rechargeable de 200 chevaux de l'Austral est le seul moteur également proposé sur Espace. On attend également une nouvelle motorisation e-tech de 300 chevaux avec un deuxième moteur sur l'essieu arrière pour un futur Rafale 4x4. Seul inconnu encore, le prix. Il devrait être logiquement un peu plus élevé que l'Espace dont les tarifs démarrent actuellement à 44 500 euros. Un modèle très attendu qui sera lancé début 2024 et qui sera produit comme ses cousins l'Austral et l'Espace à l'usine Palencia, donc au nord de Madrid, en Espagne. Pour la version hybride rechargeable et à transmission intégrale de 300 chevaux, il faudra plutôt attendre la deuxième moitié de 2024.
Voilà, en route pour demain, c'est déjà fini cette édition spéciale pour la 54e édition du Salon Aéronautique du Bourget. Merci beaucoup, Essai Alacoua. Merci, Pascal Samama, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous suivre, toujours plus nombreux, le week-end sur BFM Business et en multidiffusion sur Tech & Co. À la semaine prochaine.
En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, toujours évidemment énormément de plaisir que de vous retrouver, bon week-end et merci d'être là, à la fois sur BFM Business, vous le savez, radio-télé, sur la chaîne Tech & Co, sur YouTube, pour votre rendez-vous de la semaine, c'est De quoi je me mêle, toute l'actu donc de ces derniers jours. Avec en deuxième partie de quoi je me mêle, tout à l'heure, on va remonter le temps. Est-ce que vous vous souvenez, alors là je m'adresse aux plus vieux d'entre vous, de Second Life. C'était un peu les prémices finalement de cet univers en VR et de ce métavers tant chouchouté par Mark Zuckerberg. Eh bien on va vous raconter l'histoire de Second Life, ce sera tout à l'heure avec Christophe Joly qui a ressorti ses archives pour nous refaire vivre ce moment technologique il y a plus de 20 ans quand même, les amis. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre, si vous voulez réagir sur Twitter. Merci d'être là et on commence tout de suite par l'actu. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et l'actu cette semaine, c'est avec Anthony Morel, bien sûr, fidèle au poste, quoi qu'il arrive. Bonjour Anthony.
Salut François, salut à tous.
Anthony Morel que vous retrouvez donc sur BFM Business et RMC Story tous les matins. Voilà, et puis après, entre midi et deux avec Estelle Denis. Et nous avons aussi Raphaël Bento qui est avec nous. Salut Raphaël.
Salut.
Bento d'ailleurs. Et Raphaël, vous pouvez le lire dans Les Numériques. Excellent site d'actualité tech avec énormément de tests. Bon, alors, on va commenter l'actu de ces derniers jours. Pas mal de choses à dire quand même. Tout à l'heure, on va parler d'intelligence artificielle. On va aussi évoquer de nouveaux services d'autoréparation chez Samsung. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Bon, maintenant, s'il faut avoir un bac pro Samsung de démontage de smartphone Galaxy S22, ça va pas être facile.
T'es aussi bricoleur que moi, c'est pas gagné.
Pas gagné. En fait, ton smartphone, tu le transformes en ectoplasme.
Oui, c'est voilà, ça. C'est ça. Mais ça fonctionne encore moins bien qu'avant, en fait.
Il est déstructuré.
Voilà, c'est un iPhone déstructuré, smartphone déstructuré. Très
c'est pas mal.
Pas mal.
Mais pour débuter, on va revenir sur le Vision Pro qui, évidemment, l'onde de choc de cette annonce d'actualité de la part d'Apple, se propage encore alors que ça fait plus de deux semaines maintenant. Et cette onde de choc, on la doit entre autres à Mark Zuckerberg, Anthony, qui, lui, de son côté, depuis plusieurs années, croit dur comme fer à la VR et à son métavers avec, on le sait, des milliards, des milliards, des dizaines de milliards investis. Et il a donné son avis au Vision Pro d'Apple.
Ouais, et il est pas très impressionné, visiblement. Ouais. Alors peut-être qu'il fait ça pour se rassurer aussi, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Je l'imaginais en train de regarder la keynote et tout ça, en train de dire non, mais c'est bon ça, mais on le fait déjà.
Ça se ronger les ongles.
Ouais, c'est ça. Non, mais t'imagines quand même niveau de stress quand il devait attendre, parce que tu te dis toujours Apple, ils vont nous surprendre, ils vont présenter des trucs absolument incroyables. Est-ce que ça va être 10 000 fois mieux que notre MetaQuest, etc. Et alors, est-ce qu'il dit ça pour se rassurer ou pas? En tout cas, il a donné une petite petit speech à ses équipes, en fait, tout simplement, comme il fait régulièrement, pour discuter de l'actualité tech, y compris de ce que font ses concurrents. Et donc, il a dit, en parlant du Vision Pro, alors je le cite, c'est peut-être l'avenir de l'informatique, mais ça n'est pas celui que je veux. Et ce qui est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, ouais, enfin bon, mec, tu fais la même chose, en fait, tu fais des casques de réalité virtuelle, et t'es en train de dire, ah non, mais Apple, non, c'est pas génial. En fait, il explique qu'il y a une différence de philosophie entre ce que propose Apple et ce que propose Meta. Il dit, voilà, pendant les démonstrations du Vision Pro, tout ce qu'on a vu, c'est un gars ou une fille tout seul sur son canapé avec un casque complètement isolé du monde, dans une sorte de vision un peu dystopique du monde, en gros, une personne complètement isolée grâce ou à cause de la réalité virtuelle et de la réalité mixte. Et nous, chez Meta, ce qu'on veut faire, c'est l'inverse de ça, c'est le principe du métavers, c'est-à-dire de relier les gens, de leur permettre en fait d'avoir des expériences, des interactions, d'aller à des concerts ensemble, de se réunir, etc. Ouais. etc. Tu vois, donc en gros, il met en opposition les deux et lui dit, voilà, du coup... On boxe pas dans la même catégorie, on fait pas la même chose. Et puis, il tacle aussi au passage, il dit oui, puis d'un point de vue technologique, ouais, ils ont pas montré grand chose d'extraordinaire. Et puis, en plus,
ça coûte hyper cher. Il a pas dit
que c'était mauvais. Non, bien sûr.
Je pense qu'il a même dit un mot gentil.
Oui, en fait, il dit c'est pas la même chose. C'est-à-dire que déjà, nous, on veut faire des produits beaucoup plus abordables. Et c'est de fait, c'est vrai. Pour le coup, MetaQuest, c'est $500. Là, on parle de 3005. C'est pas du tout la même chose. Et puis, technologiquement, ils n'ont rien fait que nous n'ayons fait. En gros, c'est ce qu'il a expliqué en substance. Donc, peut-être pour se rassurer, équipes, c'est de bonne guerre. Enfin, voilà, il ne les a pas taclés non plus trop méchamment.
Et puis, en même temps, il a fait l'annonce du MetaQuest 3 quelques jours avant l'annonce d'Apple. Donc, forcément, il n'allait pas dire que c'était génial et que tout le monde devait l'acheter. Le casque devrait sortir à l'automne, a priori. Donc, voilà.
On alentour des $500.
T'imagines? Ouais, chose comme ça. En fait, c'est vrai. Ils sont vraiment mieux que chez nous, chez Apple. On va acheter leur casque, en fait. Vraiment, c'est mieux, en fait.
On va jeter notre Quest 3. Et puis, bon, voilà, on jette l'éponge. Encore bravo, Apple. Mais c'est intéressant. Enfin, je pense que d'un côté, ça doit énormément rassurer Mark Zuckerberg, cette histoire-là, parce que il se sentait un peu seul quand même dans cet univers, hein. Et on sait que la concurrence, quand on lance quand même un nouveau secteur, elle a du bon parce que ça va expliquer aux gens ce qu'on fait, etc., etc. Et je pense que de la part des yeux de Mark Zuckerberg, voir Apple se lancer là-dedans, même s'ils font pas la même chose exactement, c'est rassurant. Il se dit j'ai bien fait quand même. J'ai bien fait d'investir autant et de me lancer là-dedans il y a quelques années.
Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que là, tout ce qu'espère Meta et ceux qui ont investi dans cette idée, alors soit du métavers ou soit plus globalement dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée, se disent chouette, Apple y va. Apple a cette force de, quand ils se mettent sur un segment de marché, démocratiser, c'est un grand mot parce que là on a un appareil à $3500, mais peut-être qu'on aura des versions ultérieures qui seront peut-être moins chères éventuellement, mais en tout cas quant à la puissance de feu d'un Apple qui arrive sur un marché, clairement ça crée une brèche et ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui ne s'y intéressait pas jusque-là et qui s'y intéresse.
Bien sûr.
Je pense que vraiment Meta mise énormément là-dessus.
Évidemment.
Et sur le côté se rassurer, je pense qu'ils ont été aussi rassurés de voir que le casque d'Apple, même s'il est très esthétique, on a dit qu'il avait quand même des limites aujourd'hui technologiques en termes de miniaturisation, c'est-à-dire qu'il a toujours cette petite batterie qu'on doit porter à la taille, etc. Et je pense que ça, c'était aussi une des craintes de Zuckerberg, parce que Zuckerberg a toujours dit, non mais de toute façon, la miniaturisation, le fait d'avoir des casques qui ressemblent à des lunettes, qui puissent vraiment nous projeter dans le métavers de manière, j'allais dire, sans couture et sans qu'on ait besoin de porter quelque chose de volumineux, ça va prendre 5 ans, 10 ans. Si là, Apple était arrivé avec un truc miraculeux, tu vois, très léger...
Mais avec une claque technologique
ça aurait été dur.
Oui, ça rassure aussi Mark Zuckerberg sur plein de points.
Absolument.
Finalement. D'accord, Raphaël, sur tout ça?
Je suis bien d'accord, mais après, c'est vrai qu'on a toujours cette question de l'usage du casque, même si Apple fait les choses bien parfois et ça risque de démocratiser la chose. Je me pose encore un peu des questions là-dessus. Est-ce que vous avez envie de travailler sur un ordinateur 4, 5, 6 heures dans la journée avec un masque de ski sur les yeux alors qu'il fait 28 degrés dans l'appartement? Je me pose encore des questions.
C'est vrai que dit comme ça, ça fout une claque.
Non, mais t'as raison, c'est toute la question. Mais
bon, déjà, 4, 6, 8 heures, c'est pas possible parce que t'as 2 heures d'autonomie. Ou alors il faut que tu branches ton truc.
Ce qui limite un peu l'intérêt du truc. Non, mais c'est ce qu'on disait dans l'émission qu'on a dédiée à Vision Pro, c'est que c'est probablement une V1, comme souvent avec les appareils d'Apple.
Oui, bien sûr.
Les gros technophiles vont l'acheter parce que c'est Apple, parce qu'ils sont fans, etc. Ils vont d'une certaine manière essuyer les plâtres. Et puis dans un an et demi, on aura une vision qui sera un vision ou un produit qui sera miniaturisé, qui sera amélioré et qui peut-être s'adressera à un plus grand public. On l'a vu avec l'Apple Watch. La première Apple Watch, elle était vraiment pas extraordinaire. Il s'en est pas vendu beaucoup. Et puis petit à petit, le produit a fait son chemin, en fait, et est devenu un produit quasiment mainstream aujourd'hui.
C'est vrai.
Voilà pour le Vision Pro. Alors, juste une petite anecdote liée à tout ça. Vous savez que quand un constructeur sort un nouvel appareil, il faut déposer le nom de cet appareil, la marque. Hein. Et là, le Vision Pro, évidemment, Apple a fait ça dans les règles de l'art. Enfin, pas tout à fait, Anthony.
C'est compliqué parce que effectivement, ils ont pas dû regarder du côté de la Chine.
Non.
Peut-être que c'était écrit en chinois, alors que c'était compliqué, tu vois. Mais en fait, en Chine, il se trouve que Huawei à un autre produit qui s'appelle le Vision. Et ouais, c'est en plus une paire de lunettes de réalité augmentée. Donc c'est un truc qui, quand même,
qui ressemble un peu, quoi.
Tu vois, c'est compliqué.
Oui, si encore c'était une paire de jumelles ou un truc, tu vois, un peu loin.
C'est ça. Mais là, le Vision, qui est un produit quand même très très proche, donc ça risque de poser problème. Donc qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va y avoir une immense, une bataille juridique, etc.? J'ai discuté avec des gens de chez Huawei qui m'ont dit, en souriant un peu, non, mais s'ils nous font un chèque de quelques milliards, ça devrait passer.
Ouais, ça devrait passer, ouais, c'est ça.
Alors, ils vont s'entendre, je pense, mais probablement qu'Apple va devoir.
En gros, ça veut dire quoi, Raphaël? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas sortir ce masque-là, sous ce nom-là, en Chine?
Normalement, c'est ça, mais comme tu disais, souvent, en fait, il y a des accords de licence qui se font entre les constructeurs et c'est ça a déjà été fait par le passé avec Apple. Ils ont déjà sorti d'autres produits. Je crois que l'iPad était déjà déposé dans certains pays.
Ouais,
et voilà, ce sera sûrement un accord de licence avec un chèque, à moins qu'il y ait bataille juridique, juste si Huawei veut les emmerder. Mais
iPad, je me demande si c'était pas entre autres une marque de tampons de serviettes hygiéniques, parce que les pads en anglais,
Serviettes hygiéniques.
Ça, peut-être qu'ils n'avaient pas pensé. Effectivement, c'est pas le truc.
iPhone, je crois, qui avait été déposé par un IBM ou je sais plus quoi, avant Apple. Il y avait une histoire comme ça. Et Apple avait été obligé de racheter. Je dis peut-être IBM, c'est peut-être une bêtise, mais enfin, c'était un géant, je crois, de la tech américaine à l'époque, qui avait déposé le nom iPhone.
Je pense que là, maintenant, tous les produits avec le nom i ont déjà été déposés.
Oui, c'est ça.
Tu vois, soit par Apple ou soit par des petits malins qui se sont dit le i couteau, le i lavabo.
Le i, bien sûr.
Le i, oui.
Le plus connu, bien évidemment. Bon, alors, voilà, ça c'était pour le Vision Pro. On referme cette parenthèse là. Pour revenir à l'actualité de ces derniers jours avec Vivatech, on va pas revenir sur Vivatech puisque vous l'avez vraiment vécu de l'intérieur, surtout les canaux du groupe Altice, hein, avec sur la chaîne Tech & Co, sur BFM Business. Tu y étais, Anthony, moi j'y étais aussi. Ça a été quand même le théâtre d'annonces intéressantes et notamment concernant l'IA avec une boîte qu'on connaissait très peu. Alors moi j'avais entendu parler d'eux, je crois que je les avais reçus d'ailleurs il y a quelques mois de cela, mais la explosion totale d'une boîte qui s'appelle Mistral.ai.
Mistral, alors je crois pas que tu les aies reçus.
Enfin, je les ai pas reçus.
Ça m'étonnerait. D'accord. Peut-être parce que
j'ai dû en entendre parler et je dois confondre.
Je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait ils ne répondent à personne. C'est ça le truc, en fait, c'est qu'ils sont extrêmement mystérieux. On parce a essayé de les lancer, mais c'est en fait ils sont très très discrets pour l'instant. C'est une boîte qui a, alors ils ont levé 100 millions, donc ils ont communiqué sur cet élément-là, mais même si tu vas sur leur site internet aujourd'hui, c'est trois lignes. Je te les cite. C'est: on est en train d'assembler une équipe de classe mondiale pour développer les meilleurs modèles d'IA générative. On est à Paris. Si vous êtes chercheur ou ingénieur logiciel, contactez-nous. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a comme information sur cette boîte qui effectivement se veut une sorte de concurrent à ChatGPT, qui a été créé par des tronches. Vraiment des tronches de la Silicon Valley. En fait, trois Français qui sont revenus, qui ont fait leurs armes chez Meta, chez DeepMind, la filiale intelligence artificielle de Google, qui sortent de Polytechnique, de Normal Sup. Enfin, voilà, vraiment des têtes très très bien faites et bien pleines, et qui disent en fait, il faudrait aujourd'hui qu'on ait des champions français, pas seulement qu'on ait des cerveaux français qui bossent dans la Silicon Valley pour ces grandes boîtes, mais qu'on crée nous, nos champions nationaux. Et c'est un enjeu qui est hyper important. C'est pour ça que je trouve que c'est important de parler de cette entreprise Mistral. On n'a pas encore d'idée très précise de ce qu'ils vont faire. On sait qu'ils vont bosser sur des large language models, donc type ChatGPT, qui serait destiné aux entreprises. Ils disent avec un côté plus responsable que ChatGPT, avec par exemple le fait que les entreprises pourraient avoir un accès permanent à leurs données.
Oui.
ChatGPT, tu sais que l'un des gros problèmes, ce qu'on leur reproche, c'est que, en gros, elle siphonne tout ce qu'on lui donne, et parfois ça se retrouve dans des conversations. Enfin voilà, il y a un gros problème avec ça. D'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui interdisent l'utilisation de ChatGPT. Ouais. Donc, il y a probablement des trucs à faire avec des IA génératives françaises en langage français, ça c'est aussi un point très important pour éviter les biais anglo-saxons. Il faut qu'on ait aussi, c'est un enjeu de soft power également, nos propres intelligences artificielles. Et donc c'est comme ça, c'est avec des petits gars, des petits français qui veulent créer ces outils-là, qu'on va avoir ces intelligences artificielles made in France, qui sont un vrai enjeu de souveraineté nationale. C'est hyper important, je trouve.
Bien
c'est
sûr, un exemple. Mais évidemment.
On peut aussi parler de
100 millions, c'est ça arrive pas tous les jours.
Alors,
quoi.
C'est pas mal. C'est pas mal. Après, la question, c'est est-ce que c'est assez? Puis, je te laisse la parole juste après, mais la question, c'est toujours, tu vois, les ordres de grandeur. C'est-à-dire que 100 millions, c'est bien. Sûr. Mais en face.
Mais par rapport aux 10 milliards d'OpenAI. Voilà. Voilà.
C'est ça. C'est toujours pareil, quoi. C'est quand tu vois les budgets R&D de Facebook, de Microsoft.
Après, nous, on a des talents. On peut faire parfois aussi bien avec beaucoup moins.
On a les cerveaux, on n'a pas les milliards.
Voilà.
Est-ce que les cerveaux peuvent compenser les milliards? C'est toute la question.
C'est tout à fait la question.
En tout cas, j'aimerais bien lever 100 millions de dollars avec juste trois lignes sur un site, mais ouais. Ça, c'est un autre débat. Mais ça, c'est ce que je voulais dire, en fait, c'est que effectivement, là, on pense 100 millions, ça fait une belle somme, mais face aux milliards qui sont investis aux États-Unis, l'Europe a un peu de retard pour le moment. Ouais.
Ouais, mais il faut vraiment. Je pense qu'il faut qu'on compense, quoi. C'est ça. On a. Oui, c'était Gilles Babinet qui disait ça sur notre antenne l'autre jour. Donc notre champion digital, je ne sais plus exactement son titre là.
Digital champion.
Digital champion.
C'est mieux. Très
c'est pas mal. Franchement, sur une carte de visite,
c'est pas mal.
Digital champion, c'est pas mal.
Moi, je rêve de ça.
Je préfère ça.
Tu as deux doigts d'écrire alors que c'est pas vrai.
Oui, c'est ça. C'est pas mal. Il disait que en gros, dans l'IA, dans le monde, t'as 200-250 personnes qui comptent, et que sur ces 250, t'en as 80 à 100 sont français. Et donc voilà, on a un énorme atout, mais encore faut-il derrière créer des outils puissants. Je pensais à un deuxième outil qui s'appelle Hugging Chat, que vous pouvez utiliser d'ailleurs, qui a été créé. Alors là, c'est un petit peu différent. Ça a été créé par des Français
à
New York.
Hugging Face, hein, exactement.
Hugging Face. Alors Hugging Face, je crois que c'est le nom de l'entreprise.
C'est le nom de l'entreprise et Hugging Chat,
voilà,
c'est leur service.
Exactement. Ils ont créé un Chat GPT aussi, et avec même chose. En gros, ils se positionnent un peu en opposition avec ChatGPT sur le côté opacité, gestion des données personnelles, etc. Tu vois, là l'idée, c'est d'avoir un algorithme où tu puisses en gros mettre les mains dans le cambouis, sous le capot, aller voir exactement, complètement open source. Ça aussi, c'est des choses qui permettent de se différencier par rapport aux outils américains, et peut-être d'avoir des beaux outils made in France qui, on l'espère, seront utilisés dans le monde entier. Voilà, qu'on soit pas encore une fois comme souvent dans ces lames de fond technologiques, tu vois, entre d'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine, t'as la partie de ping-pong, et puis nous, on est les ramasseurs de balles, quoi, tu vois, c'est un peu dommage.
Voilà, donc Mistral.ai qui a levé un peu plus de 100 millions sur du vent. Enfin, cela dit, quand
c'est pas mal.
J'ose même pas la terminer,
c'est pas
celle-là,
mal.
Parce que voilà. Mais j'imagine que derrière, bien sûr, ils ont trouvé des investisseurs parce que ils ont montré des trucs.
Ouais, hein,
on va pas, ils ont pas levé comme ça 100 millions.
C'est pas sur du vent, évidemment.
Donc ça, c'est cool.
Et t'as vu les investisseurs, hein, c'est quand même
c'est
Xavier Niel,
c'est
Eric Schmidt, l'ancien patron de Google.
Donc
c'est vraiment des grands noms de la Silicon Valley.
Ils ont déjà quelque chose de structuré qui a fait waouh, quoi, en quelque sorte.
Exactement.
Dernière chose, on a un talent ici qui, malgré tout, enfin, malheureusement, travaille pour Meta, c'est Yann Lequin,
bien sûr,
qui est venu en rockstar aussi à Vivatech. Hein. Il y avait une file d'attente monstrueuse pour accéder en fait à sa keynote, enfin à son entretien en quelque sorte.
Ouais.
C'est vraiment quelqu'un qui compte, hein, dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Ah, c'est clair.
Et mais malheureusement, il travaille pour la concurrence.
On peut pas le blâmer. Hein.
Non,
les
non,
salaires,
non.
Si tu veux, tu vois, quand t'as Meta qui t'appelle, enfin, je sais pas combien il est payé, mais enfin bon, ça doit être des sommes complètement affolantes, tu vois.
Ouais.
Évidemment que tu es tenté,
mais qui met de côté, qui cagnote un peu, et puis après il vient en France, il sera
bah oui, c'est peut-être ce qu'il va faire.
Ça,
mais attendez, c'est peut-être ce qu'il va faire.
Yann, s'il te plaît, c'est bon, là, t'es plein.
Non, okay, mais moi j'aime bien son discours à Yann Lequin, parce qu'il est rafraîchissant dans cette période un peu anxiogène autour de tout ce qui touche à l'IA. C'est-à-dire qu'on en parle souvent, c'est l'IA qui va nous voler tous nos emplois, l'IA qui va à un moment se retourner contre l'humain, et lui a vraiment un discours de démythification par rapport à tout ça, en disant non mais attendez, l'IA, on n'est pas du tout là. L'IA, elle va nous aider à gagner en productivité. Ça
C'est-à-dire qu'en fait, il casse un peu la psychose qu'on peut avoir sur l'IA. Un peu comme Luc Julia, d'ailleurs.
Exactement.
Qui sont, je dirais, de la même génération, qui sont des vieux routards de l'IA.
Ouais.
Ça fait des dizaines d'années qu'ils sont là-dedans, hein, ces gens-là. Pour eux, il n'y a pas de stress particulier à avoir.
Ils peuvent passer pour un peu blasés. C'est vrai, quand tu vois leurs posts sur les réseaux sociaux, ça fait des fois un peu genre j'ai tout vu. Non, mais attendez, vous avez rien compris. Vous êtes un peu débile. Vous parlez.
Après, il faut se méfier quand même aussi, parce que sous leur assise et leur, on va dire, légitimité de l'IA, est-ce qu'ils voient tout, en fait? C'est ça. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Tu veux dire qu'ils sont trop dans le
ils
la tête
sont trop dans leur truc et voilà. Et quand on voit ChatGPT, ça impressionne tout le monde, et j'imagine que ça impressionne Yann Lequin comme Luc Julia avant que ça arrive.
Je crois que ça les impressionne pas tant que ça, en fait, parce qu'ils disent c'est des outils qui existaient tels quels depuis des années dans les laboratoires de recherche. Ce qui est impressionnant, c'est le fait d'avoir lancé un produit que les gens aient envie d'utiliser. Et donc, pour le plus grand monde, effectivement, il y a cet effet waouh. Mais pour les chercheurs en intelligence artificielle, en fait, c'est des outils qui existaient déjà dans les labos depuis longtemps. Et c'est ce qu'il explique, c'est que finalement, rien de nouveau sous le soleil. Alors, c'est vrai que, vu du point de vue d'un utilisateur lambda, ça peut sembler être très blasé et très oh là là, c'est bon, ce gars, il a déjà tout vu. Mais
je sais pas si vous avez.
Je pense qu'il est sincère de ce point de vue-là.
Pour terminer avec Yann Lequin, il est venu à Vivatech pour annoncer un truc quand même. Hein.
Oui.
Une nouvelle IA, encore plus mieux meilleur top que ChatGPT.
Qui ringardiserait ChatGPT, qui s'appelle GPA, et qui se rapprocherait un petit peu plus d'une IA générale, comme on dit. C'est-à-dire, en gros, c'est une IA qui serait basée sur le fonctionnement du cerveau, qui imiterait le fonctionnement du cerveau et donc qui aurait une intelligence qui analyserait des images, qui aurait une intelligence contextuelle et qui ne se contenterait pas, comme ChatGPT, de piocher dans une base de données et de régurgiter en synthétisant et en remettant en forme. Bon, faudra voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que sur le papier, cette promesse, elle est quand même assez vertigineuse.
On n'a pas de date, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, on ne sait rien. Quoi.
Non, je crois que ce sera accessible en open source pour les chercheurs, si je ne dis pas de bêtises, dans un premier temps. Ça va être intéressant quand même.
Et puis Yann Lequin, qu'on aimerait bien avoir sur le plateau de l'une de nos émissions. Hein. Alors, c'est quelqu'un de très occupé, mais si vous le connaissez,
on aimerait bien l'avoir. Si vous êtes breton, parce qu'il est breton.
Il est breton ?
Oui, bien sûr. Donc, la mafia bretonne, moi,
en plus, les Corses et les Bretons, on s'entend bien. Toi, t'es un peu breton.
Je suis nantais, donc je suis breton.
Toi, t'es
voilà, moi, je suis un produit du terroir parisien.
Bon, on s'en fout, alors. Ça ne nous intéresse pas. Mais c'est vrai que la Corse et les Bretons, en général, s'entendent bien. Yann, tu serais le bienvenu pour nous expliquer un petit peu ta vision de l'intelligence artificielle.
On fera une émission spéciale, je pense, s'il vient.
Mais même plusieurs,
Plusieurs,
voilà. Ça, c'est pour l'IA. Pour rester dans ce domaine-là, il y a aussi une pour revenir à cette psychose que j'évoquais tout à l'heure, il y a des études qui commencent à fleurir à droite à gauche et qui disent, attention, l'IA, ça va être un tsunami.
Ouais.
Un tsunami qui va déferler dans tous les pans de la société et qui va avoir des impacts sur l'emploi.
Absolument.
On est d'accord. Et faut toujours se méfier de ces études parce que il y en a une qui va jusqu'en 2040. Alors on a du mal à imaginer ce qui va se passer dans 3 mois.
Et d'ailleurs, c'est marrant quand tu ressors les études de 2010 qui nous parlaient déjà d'intelligence artificielle et qui disaient en gros que tout serait automatisé d'ici 2025, tu vois, et on y est quasiment t'as raison. Il faut carrément les prendre avec a grain of salt, comme disent les Américains. Mais cela dit, il y a des choses assez intéressantes sur les tendances, quoi. Tu l'as vu, non, cette étude du Boston Consulting Group,
C'était 4 Français sur 10 qui ont peur de que leur emploi se fasse remplacer à terme.
Exactement.
Mais en même temps, il y a peut-être quand même quelques métiers qui vont changer profondément, je pense, et ça risque d'arriver assez vite. Alors, je pense qu'il faut pas non plus être dans la parano et que tout va être remplacé très rapidement. Mais une présentatrice au Koweït qui est générée par une IA. Il y a quelques semaines à peine, une présentatrice météo aussi en Suisse qui est aussi générée par une IA. Donc François, attention, peut-être que tu vas devoir changer de boulot dans pas longtemps.
Je crois qu'il fallait que je change de sexe. Tu parlais de présentatrice, je me suis dit là, les gars, on va avoir du boulot.
Peut-être les deux. Écoute, voilà.
Je vois qu'une petite perruque,
mais oui.
Je me rase.
Ouais, c'est bien.
Ok.
Ça peut être sympa.
Ça peut le faire. Hein.
Françoise Lia.
On avait qu'est-ce qu'on a vu aussi, IBM il y a quelques semaines à peine qui avait annoncé aussi que 30% des emplois dans la boîte de liés à l'administratif, aux ressources humaines, n'allaient pas être remplacés en interne et qui seraient à terme gérés par de l'IA. On a aussi quelque chose à laquelle j'aurais jamais pensé. Levi's a fait un partenariat avec une entreprise spécialisée en IA pour générer des mannequins sur son site. Donc, vous savez, quand vous voulez acheter un jean ou des vêtements, vous voyez des personnes qui sont habillées avec des fringues.
Oui.
Eh bien, Levi's, maintenant, va afficher des mannequins générés par IA sous couvert de diversité et d'inclusivité pour avoir des personnes de tous les sexes, toutes les ethnies, etc. finalement, je pense que c'est surtout pour faire un peu des économies et ne pas avoir à payer des vrais mannequins, des photographes, etc. Donc,
c'est vrai,
ça arrive. Et ça va être
d'un coup, tu fais un strike. Hein. Ouais. Tu payes plus de mannequins, tu payes plus de photographes.
Ah ouais.
Alors bon, tu dois payer une solution logicielle, bien sûr, qui doit coûter de l'argent. Mais
non, mais c'est vrai. Mais t'as raison.
Tu fais des économies incroyables. Et là, c'est Lévis. Mais demain, ça sera tout le monde.
Bien sûr, bien sûr. Bah, d'autres exemples, c'est par exemple dans la pub, hein, Martini qui avait lancé une campagne de pub générée par l'intelligence artificielle avec Midjourney, où en 30 secondes, tu as des visuels, des affiches en 4x3, là où il aurait fallu des semaines avec un directeur artistique,
et des budgets, des réunions
interminables, etc.
Non,
donc là, ouais, forcément. Après, sur le côté, par exemple, pour les journalistes, alors c'est pas pour défendre notre profession, hein, qui ne sera pas plus épargnée que les autres de toute façon, mais je pense que l'humain aura toujours une valeur ajoutée sur la machine. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, je suis pas certain que les gens se pressent pour regarder des débats animés par des intelligences artificielles, tu vois. De la même manière que, moi, je suis
impatient. Ça pourrait être drôle quand même.
Peut-être qu'il y aura des trucs marrants, cela dit. Mais de la même manière que pour les échecs, tu vois, l'IA a transformé les échecs, évidemment. Aujourd'hui, un humain ne peut pas battre un ordinateur. Même Magnus Carlsen, le champion du monde, le meilleur joueur de tous les temps, enfin, on peut en discuter, ne pourra plus jamais battre un ordinateur. C'est sûr et certain. Et sur Internet, tu as des parties ordinateur contre ordinateur. Tu as AlphaZero contre Stockfish, tu vois, les logiciels les plus puissants. Sauf que ces parties-là, personne ne les regarde, ça les intéresse pas. Alors que les gens, ils veulent voir Magnus Carlsen contre Alireza Firouzja, des batailles humaines. L'imperfection de l'humain, c'est aussi un truc qu'on a envie de voir. Tu vois, c'est aussi ça que tu as envie de voir comme spectacle.
Non,
la machine, dans toute sa perfection, c'est pas forcément quelque chose de fascinant à observer, en réalité.
Oui, et puis là, enfin, quand tu vois deux ténors, par exemple, des échecs qui s'affrontent, tu décèles chez eux un vent de panique, un stress, parce qu'ils sont en train de perdre, etc. Enfin, il y a tout un truc que tu racontes.
Exactement.
Et voilà.
La machine, elle trouve juste le coup parfait, puis un autre coup parfait, puis un autre coup parfait, puis un autre coup parfait.
Et puis après, il y en a un des deux qui perd, et puis voilà. Et puis, c'est pas grave, hein, ça reboot et c'est réglé.
C'est exactement ça. Donc, et de la même manière que pour l'art, parce qu'on parle souvent des œuvres générées par Midjourney, Dali, etc., et ben, les études montrent que, en fait, alors, c'est vrai que quand tu le dis pas aux humains, on s'en rend pas compte, mais à partir du moment où tu sais qu'une œuvre a été générée par une IA, tu lui attribues moins de valeur, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire, tu te dis, ah ouais, bon, c'est un truc de l'IA, bah, je préfère celle-là qui a été faite par un humain.
C'est sur on est au tout début de l'histoire.
Oui, t'as raison.
On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Dans l'actu aussi, on va complètement changer de sujet. Vous savez qu'il y a cette volonté de la part des pouvoirs publics de nous faire conserver notre smartphone le plus longtemps possible. Alors, on nous incite à acheter des smartphones reconditionnés, à les réparer dès qu'ils ont un petit souci, que ce soit la batterie, l'écran, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une prise de conscience de la part des marques, Anthony, sur ce sujet. Apple a lancé l'année dernière une espèce d'usine à gaz qui vous permet de réparer chez vous votre smartphone, mais quand vous voyez ce que ça représente, il faut un appartement de 200 mètres carrés pour installer tout l'atelier.
Ouais.
C'est drôle d'ailleurs, hein, cette grande malle là. Moi, je trouve que c'est presque un pied de nez de la part d'Apple. Vous voulez nous obliger à sortir un kit de réparation, mais vous allez voir, vous allez être
c'est
servi.
Un peu ça. Oui, parce qu'on rappelle, tu reçois une grosse valise qui pèse je sais plus combien, 30 kilos, ouais, 35 avec
kilos,
tout le kit de réparation, tu dois payer des cautions pas possibles, etc.
Bien sûr.
Mais je pense que c'est ça, c'est-à-dire que il y a beaucoup de communication en fait dans ces annonces, que ce soit Apple ou les autres marques, parce que tout le monde est en train de suivre, en train de dire voilà, mais non, changement de communication, parce que ils nous ont dit pendant des années, surtout touchez pas votre téléphone, donnez ça à des réparateurs agréés ou dans nos magasins et on vous les répare, etc. Maintenant c'est non, mais tu peux le faire toi-même, tout le monde est bricoleur, suis nos tutos sur Internet, parce que c'est ça le principe, c'est que tu vas pouvoir acheter des petits outils, acheter la pièce de rechange, regarder des tutos sur Internet et puis faire la manipulation toi-même. Bon courage. Si t'es MacGyver, ok. Si t'es Anthony Morel, jamais. Hein. Enfin, je te le dis tout de suite. Moi, je vois les vidéos des gens qui sont en train de faire des trucs, des soudures et des machins. Jamais je ne fais ça. Enfin, c'est très très clair. Donc, je suis pas convaincu du tout, si tu veux. Je pense qu'ils se donnent bonne conscience, que sur le papier, c'est très bien de dire, regardez, vous pouvez le réparer vous-même. Je pense qu'il y a à peu près 0,001% des gens qui vont le faire.
C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Raphaël?
Je suis d'accord. Je pense qu'il y a une bonne partie comme de la part des marques. Alors là, on va parler de Samsung qui vient de sortir son kit de réparation en Europe. Mais c'est pas si compliqué que ça non plus. Franchement, quand tu regardes les tutos, alors ça dépend ce que tu veux changer comme pièce, mais il y a des trucs qui sont très très faciles.
Toi, t'as déjà démonté des smartphones tout de suite.
T'es plus bricoleur que moi, je pense, franchement.
Smartphone, ordinateur.
Il a son bac. Voilà. Il a son bac. Il fixe it. Non, mais c'est ça. Non, mais effectivement, après, quand t'as les mains dans le cambouis et tout, je peux comprendre ton point de vue. Tu as l'habitude de démonter ces petits appareils.
Ouais.
Ça doit te plaire d'ailleurs, j'imagine.
Oh, j'aime bien, c'est rigolo, mais mais vraiment, on peut se dire, ça va être ultra compliqué et tout. Alors honnêtement, un smartphone, c'est plus compliqué qu'un ordinateur. Mais aujourd'hui, il y a des projets comme bon, il y a alors le Fairphone qui a fait beaucoup parler de lui, qui est un projet de smartphone modulaire et réparable. Il y a aussi Framework qui fait beaucoup de bruit depuis un ou deux ans du côté ordinateur. Et là, tout est, c'est des petits clips, il y a quelques vis à enlever, mais il y a très peu de fiches.
Mais là, c'est fait exprès là. Pour le
c'est vrai que là, c'est étudié pour. Hein. Ouais. Alors c'est vrai que là, quand on dit, je vais devoir réparer mon Samsung, il faut s'y prendre un peu plus, faut faire gaffe, quoi, parce que tu débranches la mauvaise fiche, tu casses tout.
C'est ça.
Mais
c'est ce qui est dommage, tu vois.
Ce qui est quand même, voilà.
Il est encore plus cassé qu'avant. Ouais. Dommage.
Vous pouvez me le rembourser, Apple ?
Non, c'est vous qui l'avez bidouillé. Hein,
en revanche, on vous fait une remise de 50€ pour le prochain que vous allez acheter.
Ça, c'est sympa.
Qui est à 1400€.
Voilà, en fait, donc 1350, vous faites une super affaire quand même.
Mais je trouve l'initiative pas mal, et sur certaines pièces, c'est facile de changer une batterie. Honnêtement, c'est assez facile. Et du coup, Samsung lance son truc, son kit. Alors le petit kit d'outils coûte une trentaine d'euros, ce qui est quand même assez cher, hein, parce qu'on trouve des kits de réparation pour une dizaine d'euros sur internet, mais bon. Et puis il lance donc des petits tutos, et puis les pièces sont disponibles. Ouais. Donc il y a quand même une question un peu de durabilité qui est quand même là, qui est intéressante. Ouais. Mais effectivement, est-ce que les gens vont se motiver à aller réparer leurs trucs à la maison?
Et alors Samsung sort quoi en fait? La
oui.
même chose?
Alors je vais te dire exactement, pour ceux que ça intéresse, les pièces que tu peux remplacer, c'est écran, vitre arrière, les ports de charge sur les S20, S21, S22, et pour les ordinateurs, les Galaxy Book Pro, c'est la dalle, la batterie, le pavé tactile, la touche d'alimentation et les supports en caoutchouc. Donc voilà ce que tu peux changer, sachant que c'est pas donné non plus. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire oui, mais alors à ce moment-là, ça va me coûter beaucoup beaucoup moins cher que de passer par un réparateur agréé. Tu vois, par exemple, pour changer l'écran d'un Galaxy S22, c'est autour de 150€. Plus le kit outil.
Si tu le fais toi.
Si tu le fais toi. Plus le kit outil. Franchement, tu vas chez un réparateur agréé, ça te coûtera pas beaucoup plus cher que ça.
Ouais, c'est une des problématiques.
Donc c'est voilà. Ouais,
c'est même pas motivant.
Bah,
en fait.
Voilà, parce que tu pourrais te dire.
Sauf si t'es vraiment comme Raphaël, tu démontes des téléphones
oui,
toute la journée.
Le do it yourself. Le do it yourself, c'est intéressant si vraiment ça te permet de faire des économies.
Évidemment.
Quoi. Sinon,
voilà.
Sinon personne ne va le faire. Donc c'est pour ça. Moi, je pense qu'ils le font parce qu'effectivement, il y a cette tendance dans la population générale, on veut des smartphones qui durent plus longtemps, etc. Donc ça répond quand même à une demande du consommateur. Ça répond aussi à une demande du législateur, hein, que ce soit aux États-Unis ou en France, ça pousse pour le droit à la réparabilité. L'administration Biden aux États-Unis pousse pour ça. Mmh. En France aussi, on a les petites étiquettes maintenant voilà. avec la réparabilité, etc.
C'est une nécessité.
Bien, voilà, c'est dans l'air du temps.
Ouais.
Donc ils y vont tous et c'est logique et ça va plutôt dans le bon sens.
Ouais.
Après, bon, je suis pas convaincu que beaucoup, beaucoup de gens, en réalité, s'emparent de ces outils.
Alors, Samsung s'y met, avec, tu l'as dit, Galaxy S20, 21, 22. Pas les pliants, hein, quand même, ils exagèrent pas.
Non, ça, je pense que même les réparateurs agréés, ils doivent bien galérer, mais.
Tu m'étonnes.
Même imagine les un réparateur agréé, tu dis, voilà, je viens avec mon Fold, qui est donc le smartphone pliant, vous connaissez. Non, vous voulez pas le réparer.
Non. Okay. Non.
Qu'est-ce que je fais? Je le mets à la poubelle direct.
Oui. Ok. C'est ça. Vous achetez le 5 après.
C'est ça.
Non. Le prochain sort bientôt.
Après, faut voir si on économise quand même la main-d'œuvre, si, en boutique, ça vous coûte, je sais pas, 50€ de main-d'œuvre, plus le prix de l'écran. Bon, là, vous allez peut-être économiser 50€. Bon, c'est toujours ça le prix, mais c'est vrai que tu disais que les écrans sont à 150€, mais ça peut monter sur le Ultra à 300, plus de 300€.
Ouais, parce que c'est vraiment une pièce très, très, ouais. très qualitative, en fait.
C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Pour terminer, on va parler de Google Photos, que vous utilisez peut-être. Franchement, moi, j'utilise Google Photos. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs systèmes de stockage de photos dans le cloud. Voilà. Alors, on critique Google en disant, ben voilà, évidemment, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Moi, je paye parce que, en fait, tu payes pour avoir un stockage, une capacité de stockage.
Ouais, sinon, t'es vite.
Mais l'IA, ça fait des années que moi, je suis bluffé, tu vois. Tu tapes coucher de soleil, il va te sortir toutes tes photos de coucher de soleil. Tu tapes, je sais pas moi, le prénom de ta cousine, il va détecter parce qu'il a préalablement détecté tous les trucs. C'est vraiment incroyable. Et ça fait des années.
Le côté moteur de recherche est très spectaculaire.
Voilà. Et Google Photos vient d'annoncer, enfin, je sais même pas s'ils ont annoncé, ils l'ont annoncé en fait, une nouvelle fonctionnalité, ou en tout cas quelqu'un a détecté une nouvelle fonctionnalité.
Exactement. Et c'est alors je sais pas comment dire du coup, c'est embêtant. On a la reconnaissance faciale.
La reconnaissance dorsale.
Oui, c'est ça. C'est en fait la reconnaissance faciale, mais de dos.
La reconnaissance nucale.
La reconnaissance nucale, c'est pas mal. On garde. C'est-à-dire qu'en gros, la reconnaissance faciale fonctionne même si tu es de dos. Voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité. Alors, c'est assez étonnant. Alors, quand on dit reconnaissance faciale, en fait, c'est pas de la reconnaissance de la boîte crânienne. En fait, c'est qu'il va prendre une image de ta tête et de ta silhouette,
oui,
et qu'il va en fait l'agréger avec plein d'autres métadonnées dont il dispose.
Voilà, et la forme de ton crâne, peut-être tes cheveux, tes oreilles.
Non, c'est même pas ça. Ça va être plutôt,
ah oui,
si t'as pris d'autres photos au même moment, au même endroit, les vêtements que tu portes, d'accord, etc. Et en fonction de tout ça, il va faire, si tu veux,
un comparatif.
Exactement. Il va dire, bah si, là, c'est forcément c'est François. Il a la même chemise.
Oui,
là,
sûr,
ok, il est de dos, mais c'est la même personne. Bim, hop, t'es reconnu. Et donc voilà, on pourrait. Mais c'est intéressant de voir que ces systèmes de reconnaissance faciale, ils sont de plus en plus efficaces de toute façon. C'est-à-dire qu'on peut te reconnaître maintenant, que tu sois visage nu, si tu as une barbe, si tu as des lunettes de soleil, si tu as changé de coiffure, si tu as une photo qui a été prise de toi il y a 20 ans ou 30 ans. En fait, on va être capable de te détecter. Il y avait aussi la détection du visage, y compris quand tu portes un masque, tu sais, pendant le Covid. Ils avaient fait ce truc-là pour déverrouiller les téléphones, ou même avec un masque chirurgical, on est quand même capable, à partir des yeux et du haut de ton visage, de te détecter. Ça devient quand même assez flippant. Hein. La reconnaissance faciale, c'est quelle que soit la position, quelle que soit la façon dont tu essaies de te cacher, on peut te retrouver d'une certaine manière.
Google Photos.
Mais moi je l'utilise pas, mais je sais que j'ai regardé un peu comment ça fonctionne et tout. C'est vrai que c'est assez incroyable, hein, le fait de pouvoir retrouver n'importe qui, n'importe quand en quelques clics, c'est assez fou.
C'est un outil assez génial.
Ouais, c'est génial. Et franchement, ça marche très très bien. Ils ont été malins parce que pendant des années, tu avais un stockage illimité de photos. Je sais pas si vous vous souvenez. Et puis il y a 2-3 ans, ils ont dit, bah c'est fini la fiesta, les gars.
Oui.
Maintenant, dès que vous dépassez telle capacité, il faut payer. À noter, tiens, j'ai dit, mais je le répète parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Je fais pas de la pub pour Amazon, mais si on est abonné à Amazon Prime, vous avez dans tout le bouquet de services offerts le stockage illimité de toutes vos photos sans compression.
C'est pas mal.
Enfin, peu de monde le sait.
Ouais.
Alors c'est moins poussé que Google. Il y a de l'IA, mais ça marche moins bien. L'appli est voilà, c'est pas au niveau de Google, mais
si on a
Prime Vidéo, enfin si on a le l'abonnement Prime global et qu'on a beaucoup de photos à stocker, c'est illimité et c'est surtout pas recompressé. Donc tu te retrouves avec la même qualité de photo originale. Voilà pour l'actu. Pas mal de choses quand même, hein, cette semaine. Et c'était un vrai plaisir que de commenter tout cela avec vous, messieurs. Merci Raphaël Benteo.
Ben merci à vous pour
les numériques. Tu fais des petits tutos, des montages de smartphones de temps en temps,
pas ? J'en fais pas trop. Alors j'ai fait une émission spéciale réparabilité il y a quelques jours là.
Ah ben voilà,
en direct sur Twitch.
Bah tu sais quoi, on va
regarder.
On va aller voir. Je pense qu'avec Anthony, d'ici la fin de l'année, notre défi c'est de peut-être démonter un smartphone.
Écoute, c'est pas mal comme défi, je trouve.
Je pense qu'il faut qu'on prenne un smartphone pas trop cher, histoire de pas trop pleurer si on n'arrive pas à
le réparer. C'est l'avantage de Samsung, quoi, c'est que tu peux prendre. Remarque, c'est que sur les Galaxy S. Mais peut-être qu'ils vont étendre ça à leur milieu et entrée de gamme, tu vois.
Quoi qu'on peut commencer par un Fairphone, puisqu'il est fait pour ça.
C'est plus facile.
C'est plus facile. Ouais, et puis après, on montera en gamme, etc. etc. Merci Raphaël, merci Anthony.
Merci.
Merci à tous les deux pour cette première partie de De quoi je me mêle et le club de la presse IT. Second Life.
Oh là là.
Quelle histoire ce truc, vous vous en souvenez ?
L'ancêtre
du métavers. Pas né à l'époque.
Ouais. J'étais né, mais j'étais petit.
Il est tout petit. Ouais. Nous, on l'a un peu connu.
Mais bien sûr. C'est vraiment l'ancêtre du métavers. Vraiment, il y avait cette notion d'univers persistant,
c'est
où tu pouvais vivre une deuxième vie parallèle,
exact,
tu pouvais créer ton business, gagner de l'argent. Enfin,
ouais, mais t'avais deux images par seconde quand tu te baladais sur le oui, parce que t'avais ton modem 56K.
Bien sûr.
Tu n'avais pas le temps de charger les décors.
C'était pas pire que les premières images du métavers de Zuckerberg. Hein,
c'est plutôt mieux même.
Et donc, on va revenir sur l'histoire de Second Life dans un instant avec Christophe Joly qui a ouvert ses encyclopédies. Merci, vous restez avec nous pour la deuxième partie de quoi je me mêle.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.